exiger que tout projet de réorganisation de l'État comporte le vote des femmes. Merci.
Bonjour, aujourd'hui dans le fil de l'histoire, deuxième épisode de notre série consacrée au droit de vote féminin en France, en compagnie de l'historienne Anne-Sara Bouglet-Moalic. Pour quelles raisons obscures les Françaises ont-elles attendu 1944 pour obtenir ce droit dont tant de femmes dans le monde jouissaient déjà depuis longtemps ? Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment la Révolution française a fait des femmes des citoyennes, mais des citoyennes passives. Et en 1848, pourquoi la République nouvellement proclamée va-t-elle, elle aussi, fermer la porte aux femmes ? En février 1848, le peuple de Paris se soulève et prend le contrôle de la capitale. C'est le début de la Révolution de 1848, qui très vite fait souffler un immense espoir démocratique en France et bientôt dans toute l'Europe. Alors que le roi Louis-Philippe abdique et prend la fuite, la monarchie est abolie et le 24 février, la Deuxième République est proclamée. 10 jours plus tard, dans l'euphorie générale, le gouvernement provisoire proclame le suffrage universel. Désormais, tous les hommes de nationalité française, âgés de 21 ans ou plus, et jouissant de leurs droits civils et politiques, peuvent voter. Le corps électoral, qui ne comptait que 246 000 votants, passe alors à plus de 9 millions. Une grande victoire. Mais les femmes, encore une fois, sont mises de côté. Oubliées par la force d'inertie, ou bien délibérément et consciemment rejetées ?
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Le peuple ne veut pas de la régence. Il veut la République.
Les femmes pourtant sont bien présentes et actives sur les barricades de la Révolution de 1848, dans les manifestations, dans les réunions politiques. Et même si leurs noms sont aujourd'hui oubliés, des figures féminines émergent et s'imposent dans les débats pour réclamer le droit de vote. Elles s'appellent Désirée Gay, Jeanne de Rouen, Jenny d'Héricourt, Suzanne Voilquin, Adèle Esquiros ou Eugénie Niboyet, qui se trouve être la lointaine aïeule de la réalisatrice de cette émission, Claire Destacan. En 1848, un épisode fera beaucoup de mal à la cause du droit de vote féminin. En avril, lors de la campagne électorale, le journal d'Eugénie Niboyet, La Voix des Femmes, décide de faire un coup en présentant une femme connue à la candidature, l'écrivaine George Sand. Mais contre toute attente, celle-ci récuse cette initiative qu'elle qualifie, je cite, de plaisanterie, et elle déclare même espérer qu'aucun électeur ne voudra perdre son vote en faisant écrire son nom.
George Sand, elle, milite pour l'éducation des femmes, donc ça va être ça, sa principale revendication. Elle exprime en fait par là le fait que les femmes seraient incapables à ce stade en 1848 de voter, ce que disent par ailleurs beaucoup d'hommes et beaucoup d'hommes politiques, tous les hommes, hein, les 9 millions là, d'hommes qui vont désormais voter. Et puis par ailleurs, on peut aussi se dire qu'elle, qui est tellement bien intégrée dans la classe politique, qui a réussi à se faire un nom d'homme, mais oui, un nom quand même à elle, peut-être qu'elle voit d'un mauvais œil que tout d'un coup, le privilège qu'elle a réussi à se construire soit remis en cause et soit finalement offert à l'ensemble de ses concitoyennes.
Et Eugénie Niboyet, pouvez-vous nous parler un peu d'elle et de son combat justement en 1848, elle et puis ses camarades femmes féministes de 1848?
Eugénie Niboyet est une figure importante, notamment par le biais des titres de presse qu'elle va créer et faire diffuser. Elle va porter des vraies revendications en faveur notamment du vote des femmes. Il y a beaucoup d'autres féministes qui vont avoir un regard beaucoup plus social. Je pense par exemple à Pauline Roland qui va se battre en faveur des ateliers nationaux, donc du travail des plus pauvres. Et il y a souvent dans ces féministes de 1848 entremêlé le combat pour les femmes et pour un droit politique et en même temps pour des droits sociaux plus étendus, pas que pour les femmes, mais notamment pour les femmes.
Arrêtons-nous aussi sur une autre de ces féministes de 1848, Jeanne de Rouen, qui, elle, ne partage pas du tout le point de vue de George Sand. Jeanne de Rouen est un sacré personnage. Née dans une famille pauvre, cette couturière autodidacte est journaliste et militante socialiste. Mais à ses yeux, l'émancipation politique et sociale est impossible sans l'égalité entre les hommes et les femmes. Et en toute logique, le suffrage universel masculin, pour elle, est une injustice. En avril 1849, donc un an après l'épisode malheureux avec George Sand, lors des élections législatives, cette femme audacieuse tente un geste spectaculaire. Elle se porte candidate à l'Assemblée nationale dans la 8e circonscription de Paris, alors que bien sûr les femmes ne sont pas admises. Bien qu'elle sache son élection impossible juridiquement, elle veut frapper les esprits et prouver que les femmes sont capables d'assumer des responsabilités politiques. Cet acte provoque un scandale. La presse populaire et conservatrice se moque de Jeanne de Rouen. Qu'est-ce que c'est que cette dame, ironise le journal L'Illustration. Une cantatrice, une danseuse, un bas bleu? Certains députés crient à la subversion, même à gauche. Le plus virulent est l'anarchiste Joseph Proudhon. Je regarde comme funeste et stupide toutes nos rêveries d'émancipation de la femme, écrit-il. Je lui refuse toute espèce de droit et d'initiative politique. Je crois que pour la femme, la liberté et le bien-être consistent uniquement dans le mariage, la maternité, les soins domestiques, la fidélité de l'époux, la chasteté et la retraite. Fin de citation. Jeanne de Rouen échoue, mais il n'empêche, elle devient la première Française à avoir brisé symboliquement l'interdit du suffrage politique féminin. Hansa Bouglé-Moali, quels sont les arguments des Républicains de 1848 contre le droit de vote des femmes?
Déjà, je appuyer le fait que Jeanne de Rouen est un personnage extraordinaire et qui est malheureusement trop peu connu aujourd'hui. C'est vraiment un modèle et une pionnière incroyable. Les arguments des républicains à l'époque sont assez faibles. Ils ne cherchent même pas vraiment à débattre sur le sujet qui est considéré comme complètement utopique. Il a été porté par des personnes qui étaient fourriéristes ou qui étaient saint-simoniens, c'est-à-dire qui avaient développé depuis plusieurs années une philosophie qui était très portée sur l'égalité, la fraternité et qui incluait assez facilement les femmes. Et donc on a comme ça quelques députés, notamment un député qui s'appelle Pierre Leroux, qui va réclamer les droits politiques pour les femmes, en tout cas les droits municipaux, à la tribune en 1851. Et on voit que lui va porter des arguments un peu comme Condorcet, hein, des arguments vraiment très universalistes. Et face à lui, ben, il n'y a pas d'argument, il y a des rires. Il y a des rires, il y a un chahut extrême qui fait que la séance parlementaire va se terminer dans une forme de chaos. On n'essaye même pas à cette époque-là d'argumenter contre le vote des femmes, tellement il paraît irréaliste.
Vous parlez dans votre livre, Hansa Bouglé-Moalic, d'une transcendance de la pensée hégémonique. De quoi s'agit-il ?
Il y a à cette époque-là une pensée au XIXe siècle qui est donc toujours concentrée sur le rôle des hommes d'un côté, des femmes de l'autre, des hommes qui vont avoir tout le pouvoir et toutes les activités extérieures à la famille et les femmes qui vont, elles, être dans l'intériorité, intériorité de la famille, de la maternité. Et donc toutes leurs activités doivent correspondre à cette binarité entre l'extérieur et l'intérieur. Et ça, c'est cette pensée hégémonique du XIXe siècle. Elle est dans cette chape qui pèse sur les femmes, qui font qu'elles n'ont quasiment pas de droits en dehors de la famille et que la seule représentation qu'elles peuvent avoir vers l'extérieur, c'est via un homme, que ce soit le père ou le mari. Et ça, c'est vraiment, ça traverse tout le siècle. Mais ça traverse aussi toutes les idéologies. On a parlé de Joseph Proudhon, qui est un phallocrate, hein, qui lui défend même une masculinité plus forte que le féminin. Mais ça va aussi traverser la pensée de grands sociologues comme Auguste Comte, de grands historiens comme Jules Michelet. Et tout ça fait qu'il est difficile de concevoir un rôle différent pour la femme à cette époque-là. Et c'est ça qui rend le combat des premières féministes encore plus étonnant et encore plus courageux parce qu'elles sont vraiment dans une forme de subversion par rapport à cette pensée hégémonique.
Merci Hansa Bouglé-Moalic. La revendication donc en 1848 du droit de vote féminin est ridiculisée et n'a plus vraiment de sens sous le Second Empire. Il faut attendre les années 1870 et l'avènement de la Troisième République pour que des féministes s'emparent à nouveau du sujet. On poursuit cette discussion dans le prochain épisode qui sera consacré aux suffragistes et aux suffragettes de la Troisième République. À demain, 14h04.